Bonjour, vous êtes bien sur Esprit Occitanie, qui va vous faire entendre un certain nombre de rubriques, vous verrez, extrêmement diverses, extrêmement variées. C'est Patchwork. Alors au menu cette semaine, eh bien vous allez entendre la chronique de Maître Marie, chronique juridique de notre avocate et amie Marie Lebert. Vous entendrez également une rubrique sur la finance, rubrique un peu décalée, vous verrez, ça s'appelle la Casa de Ebel. Vous entendrez aussi une lecture. Nous avons décidé sur Esprit Occitanie de vous lire un livre, c'est un polar, vous verrez cela. Nous avons une lectrice de choc. Et ensuite, nous finirons par notre œnologue, Mariam, qui ne sera présente que la semaine prochaine. Donc, vous entendrez une rubrique qui s'appellera « Une semaine, un vin ». Elle vous parlera également du terroir de ce même vin. Voilà, Patchwork, vous avez le menu et c'est parti.
À tous, ravi de vous retrouver pour le Patchwork sur Esprit Occitanie pour cette dernière chronique de Maître Marie de 2019. Ici, vous le savez, on parle de droit sans non plus trop se prendre au sérieux et si possible en prise avec l'actu. Et l'actu pour nous tous, c'est qu'on va bientôt faire un petit break pour les fêtes car Noël c'est bientôt, mais avant Noël, événement, cette semaine avait lieu la sortie de l'épisode 9 de Star Wars, l'ascension de Skywalker. Et vous êtes en train de vous dire, un, elle est folle, et peut-être que vous n'avez pas tort, deux, quel lien peut-elle nous faire entre Star Wars et le droit ? Va-t-elle nous lancer le fameux « je suis ton père » et nous parler de contestation de paternité ? Va-t-elle se prendre pour Maître Yoda et nous dire « avocate au barreau de Toulouse, je suis » ? Eh bien non, mais figurez-vous que le droit lui aussi entre dans la voie du troisième millénaire et de la science-fiction, qui devient réalité avec l'open data. Oui, mais encore, c'est quoi l'open data ? Eh bien bientôt, les jugements judiciaires et administratifs devraient être consultables gratuitement sur Internet. Le gouvernement a publié le 13 décembre 2019 son projet de décret relatif à la mise à la disposition du public des jugements judiciaires et administratifs. Une petite révolution qui doit à terme permettre l'essor de services automatiques d'analyse de la jurisprudence basés sur l'intelligence artificielle. Alors, en réalité, la diffusion du droit par voie électronique remonte à de nombreuses années, que cela soit par le service Joël, qui était en fait le journal officiel électronique, ou l'instauration du portail Légifrance, que vous êtes nombreux à connaître. Il a fallu attendre 2002 pour que les arrêts des cours suprêmes, que sont la Cour de cassation et le Conseil d'État, et du Tribunal des conflits, soient diffusés gratuitement par voie électronique. La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a ensuite promis d'engager un vaste mouvement d'ouverture des données publiques, avec notamment la mise en ligne des décisions de justice, et c'était les articles 20 et 21 de cette loi, qui doivent être portés par un décret en Conseil d'État qui n'a donc toujours pas été publié. Voilà. Mais les décisions de justice ne sont pas des documents administratifs et leur mise en open data méritait donc un traitement particulier. Alors pour l'anecdote, en 2016, plus de 3 millions de décisions au civil et au pénal ont été rendues et la même année, Légifrance en a diffusé 14 000. Alors vous allez me dire, bah oui, mais alors si Légifrance diffuse, ça existe déjà, donc bon, la nouveauté, c'est quoi ? Eh bien, il faut distinguer en fait open data et open access. Alors déjà, les décisions sont rendues au nom du peuple français. Ça, si un jour vous avez un jugement entre les mains, vous le verrez, c'est l'en-tête de toutes les décisions de justice. Et il existe à ce jour trois régimes juridiques différents pour pouvoir accéder et lire en tout ou partie une jurisprudence. On a le service public de diffusion du droit géré par la Direction de l'information légale administrative. On a la mise à disposition à titre gratuit sous forme électronique de données jurisprudentielles, c'est l'open data des décisions de justice, et l'accès à une copie d'une décision ou d'un arrêt par un tiers, ça c'est la délivrance ou l'open access. La publication de la jurisprudence, c'est la diffusion et la mise à disposition à titre gratuit sous forme électronique des décisions de justice. La publicité, petite nuance, c'est l'accès à une copie de ces derniers. Alors cette année, la Cour d'appel de Paris a rendu le 25 juin 2019 un arrêt assez important où elle a rappelé la distinction justement entre l'open data des décisions et l'accès à la copie d'une décision par un tiers, et tout ça à la lecture de la loi de programmation 2018-2022 de réforme de la justice. Alors en gros, l'histoire de l'arrêt est la suivante. La directrice du greffe du TGI de Paris a été saisie d'une demande d'accès aux minutes de la juridiction et elle a refusé de communiquer les dites minutes pour défaut de ressources nécessaires à la mise en œuvre de cette demande. Au passage, je salue quand même le travail de nos greffières qui font un boulot fantastique dans les tribunaux mais qui ne s'appellent pas Vishnou et qui donc font ce qu'elles peuvent avec leurs deux bras et leur tête. Donc le requérant a saisi le président du TGI, conformément aux articles 1440 et 1441 du Code de procédure civile, pour qu'il ordonne en fait à la greffière de délivrer les copies demandées et que soit accordé le droit de réutiliser les informations publiques contenues dans les décisions. La requête a été rejetée, s'en est suivi un recours en deux temps dont je vous épargne les spécificités procédurales, et on aboutit à cet arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 juin 2019. Alors, l'apport majeur de cette décision, il porte sur la clarification entre les notions de mise à disposition à titre gratuit sous forme électronique et d'accès à une copie d'une décision. L'open access, il a été défini en France par la loi dite Valter du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public. Cette loi se fonde sur l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui énonce « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Cependant, sont exclues de ce champ les données à caractère jurisprudentiel, donc les décisions de justice, eu égard à la séparation des pouvoirs définie par l'article 64 de la Constitution. L'open data des décisions de justice repose quant à lui sur l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et il a été introduit en droit français par la loi du 7 octobre 2016 pour, comme je vous le disais tout à l'heure, loi pour une république numérique, modifiée par la loi de programmation de la justice du 23 mars 2019. Comme ce dispositif est récent, eh bien de nombreuses interrogations se sont formées quant à sa mise en œuvre, et donc une mission a été confiée à Loïc Cadier, juriste hautement compétent, et il a remis son rapport à la garde des Sceaux le 9 janvier 2017. Les articles L111-13 et L111-14 du Code de l'organisation judiciaire instaurent clairement deux régimes, que sont respectivement donc la mise à disposition à titre gratuit sous forme électronique, donc si vous savez, vous suivez, vous savez que ça, c'est l'open data, et la délivrance d'une copie d'une décision à un tiers, c'est-à-dire l'open access. Donc maintenant que vous connaissez la différence, peut-être que s'il y a un blanc pendant le réveillon, vous pourrez dire à votre beau-frère, « Dis donc Michel, tu connais la différence entre open data et open access ? Tu vas voir, c'est très simple, je vais t'expliquer. » Et vous nous direz si le débat qui s'en sera immanquablement suivi, je n'en doute pas, a été enflammé. Et oui, pourquoi ? Parce que l'application concrète de l'open data, ça soulève quand même de grosses difficultés au niveau des moyens à mettre en œuvre et des principes à respecter. Alors, le projet de décret, donc publié, comme je vous le disais, le 13 décembre, commence à lever le voile sur certaines modalités concrètes. Et par exemple, il a confié la responsabilité de la numérisation et de la mise à disposition des décisions à la Cour de cassation pour les décisions judiciaires, au Conseil d'État pour les décisions administratives. Mais cet open data, il fait face à des enjeux qui sont parfois contradictoires parce que vous mélangez publicité des décisions, respect de la vie privée, protection des données à caractère personnel, opportunité économique, vision nouvelle de la justice, sécurité des professionnels. Comment est-ce qu'on ouvre au public les décisions de justice en allant contre aucun de ces impératifs dans le respect du droit national et européen ? Alors la mission Cadier, dans son rapport, distinguait les personnes physiques mentionnées dans une décision et les professionnels du droit. Alors selon ce rapport, il faut se satisfaire en fait de ce qui est fait un petit peu actuellement, c'est-à-dire la pseudonymisation actuelle qu'on a, où la personne reste quand même identifiable. Ce que nous dit le rapport, c'est que tout doit reposer sur l'équilibre entre la finalité légitime que constitue l'utilité documentaire de la diffusion de la jurisprudence et la protection de la vie privée des personnes. Alors, c'est vrai que il y a toujours un risque de réidentification, mais quand vous diffusez une décision de justice pour qu'elle garde un intérêt, si vous supprimez à la fois et le nom des parties et les faits importants du dossier qui vont faire que, justement, la décision a tout son intérêt parce qu'elle tranche un point assez important, la diffusion devient sans intérêt. Donc, On garde quand même un risque de réidentification, mais ça devient une obligation de moyens et non de résultats. Donc si les personnes sont reconnues grâce au fait du dossier, elles ne pourront pas le contester. Et ça va être un décret en Conseil d'État, donc de proposer une solution globale plutôt qu'au cas par cas, avec peut-être des spécificités selon les contentieux. Alors, on a parlé des parties, mais quid des professionnels de la justice ? Alors, quand on lit le rapport Cadier, ce qui en ressort, c'est qu'il y a eu de sensibles divergences. Ça veut dire qu'ils ont eu un mal de chien et qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Il y a ceux qui sont en faveur du maintien du nom des magistrats, qui rendent les décisions, et qui évoquent pour ça... ils ont évoqué la publicité des décisions de justice qui garantit notamment le procès équitable et qui rend le magistrat ce qu'on appelle comptable auprès des citoyens des décisions qu'il rend. Connaître l'identité d'un juge, ça s'inscrirait également dans la logique même de l'open data, d'amélioration de la prévisibilité de la justice. Il n'y aurait pas de raison, en somme, que les magistrats échappent éternellement aux plateformes de notation. À l'inverse, vous avez ceux qui sont opposés au maintien de leur nom, et qui font valoir que la justice est une institution, qu'elle n'est pas le fait d'un individu, aussi magistrat soit-il, et que ce qui va intéresser la machine, c'est la décision de justice et la juridiction, pas l'être humain qui l'a rendue. Reste à savoir quand même s'il faut pas prendre en compte certaines situations particulières, comme celle des magistrats qui exercent dans le domaine de l'état d'urgence, du terrorisme ou de la criminalité. Voilà. Même constat, selon le rapport, pour les conseillers prud'hommes, qu'on considère comme particulièrement exposés. Et puis, que faire des greffiers? Si les magistrats disparaissent des décisions de justice, le nom de ces auxiliaires de justice doit disparaître également, préconise le rapport, ce qui apparaît logique, puisqu'on ne voit pas pourquoi on n'aurait plus le nom du juge, mais on garderait le nom du greffier ou de la greffière. Alors, pour les avocats, la question est plus délicate, parce que dans le cadre de l'open data, la mention de leur nom peut-être constituer un terrain publicitaire privilégié, ou pas, et les desservir, ça dépend. À ma connaissance, la profession n'est pas favorable aujourd'hui à ce que le nom des avocats soit laissé sur les décisions de justice en open data. Alors, si on passe au plan pratique, donc, le décret prévoit que les noms et prénoms des personnes physiques seront occultés de manière systématique. Le juge pourra décider s'il y a lieu d'occulter tout élément d'identification susceptible de porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée. Et le texte prévoit un délai pouvant aller jusqu'à 6 mois pour libérer les décisions et les rendre publiques. Alors aujourd'hui, les éditeurs juridiques, on va pas citer de nom, mais parviennent à récupérer certaines décisions beaucoup plus rapidement. Et c'est le cas en particulier pour les premières décisions d'application d'une nouvelle loi qui suscite toujours un fort intérêt de la communauté juridique. La rédaction du décret pour le moment entretient également le flou sur la possibilité pour des personnes morales, donc sociétés, groupements d'intérêt économique, de demander l'occultation de leur nom. Et en tout cas, pour l'instant, les éditeurs juridiques et les start-up d'analyse de jurisprudence recueillent chacune de leur côté les décisions judiciaires avec leurs propres moyens. Alors les avocats, qui sont quand même sensibles à toutes ces questions, notamment de protection des libertés fondamentales et du droit à la vie privée, ont voté une résolution lors de la Rassemblée générale du Conseil national des barreaux des 13 et 14 décembre 2019. Pour les bons points du décret, les avocats se sont satisfaits que la responsabilité de la diffusion des décisions soit confiée à la Cour de cassation et au Conseil d'État. On a rappelé que l'objectif d'information du public doit être mis en balance avec le droit au respect de la vie privée des personnes concernées par les décisions de justice et que les droits fondamentaux dont les avocats sont les garants, je le rappelle, doivent être entourés de garanties pour être effectifs. Par contre, la partie qui inquiète, c'est que on a un dispositif qui laisse au juge une marge trop importante d'appréciation en ce qui concerne les informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au respect de la vie privée des personnes citées dans la décision, sans laisser à ces dernières, parties ou tiers, la possibilité de contester la décision d'occultation ou de non-occultation avant la publication de la décision. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de contrôle, il n'y aura pas de débat de contradictoire et pour l'instant, il n'y a pas de recours. Voilà, le juge décide si ce qu'on enlève de la décision, en plus du nom, et ce qui reste. Et ça, les parties directement mentionnées dans le jugement n'auront pas de recours contre ça. Et il faudrait quand même que... il y a un recours qui soit créé pour permettre aux justiciables et à leurs conseils de garantir le respect de la vie privée. Et puis, il faudra quand même faire preuve de vigilance quant à l'utilisation qui sera faite des décisions de justice ainsi mises à disposition et garantir la transparence et l'éthique des algorithmes utilisés pour leur exploitation. Voilà. C'est la fin de cette chronique de Maître Marie, un petit peu entre science-fiction et réalité aujourd'hui. Si vous avez pris la chronique en cours de route, si vous l'avez manquée ou si tout simplement vous souhaitez entre la dinde et la bûche nourrir aussi vos cellules grises pendant ces fêtes, eh bien retrouvez-moi et retrouvez toute l'équipe du Patchwork dans notre bibliothèque de podcast sur www.espritoccitanie.fr. Passez de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2020, bien sûr, sur Esprit Occitanie, la radio.
Bonjour et bienvenue dans la Casa des Belles. Petit flashback à quelques heures de Noël. Je sens que la dinde est bientôt prête, donc je vais me dépêcher. Je vous embarque aujourd'hui pour les Provinces-Unies, leur futur Pays-Bas, au début du XVIIe siècle. Nous allons parler bulbe de tulipe, krach boursier. Ah, quel est le rapport entre les deux? Ne coupez pas l'antenne et vous allez savoir. L'épisode que je vais vous narrer a été popularisé par le livre d'un journaliste anglais, Charles Mackay, publié en 1841 sous le titre « Illusion populaire extraordinaire et la folie des foules ». Et la folie des foules, c'est pas mal qu'il l'ait rajouté au titre parce que c'est exactement ce qui se passe. Alors cet épisode est à prendre avec des pincettes, car toutes les données économiques de cette période proviennent en général de pamphlets qui sont assez peu pro-capitalistes, on va même dire anti-capitalistes. Mais quoi qu'il en soit, et même si cet événement est inventé de toutes pièces, l'histoire s'est chargée de rappeler périodiquement aux épargnants ce qu'est un krach boursier. Mais au fait, c'est quoi un krach boursier ? Alors, pour ceux qui les ont connus, ils le savent. Mais pour les autres, une petite définition. Alors, le krach boursier, c'est une baisse soudaine et précipitée d'actions, entraînant une place financière, voire l'ensemble des places financières. L'une des caractéristiques principales du krach est l'effet de panique. Effectivement, si vous vous souvenez, alors j'ai dû déjà vous en parler, un fauteuil pour deux. La scène où ils se trouvent sur les marchés financiers avec leur jus d'orange concentré, au moment où Louis, interprété par Dan Aykroyd, dit « je vends », et à ce moment-là, c'est la panique, tout le monde vend, il n'y a plus aucun acheteur. Donc c'est un effet de panique qui voit les investisseurs vendre tous en même temps. Et bien entendu, en face, il y a de temps en temps un acheteur, mais sinon, il peut ne plus y avoir d'acheteur. Donc vous avez une vente avec un prix qui dégringole sans fond. Certains boursiers disent qu'ils n'achètent pas à ce moment-là, simplement parce qu'on n'essaye pas d'arrêter un couteau qui tombe. Donc ça crée une spirale boursière que rien ne peut arrêter. Sauf, dans certains cas, un acheteur, ou alors on ferme le marché pour que tous les opérateurs reprennent leurs esprits. Cette fermeture peut être de court terme, ou, comme nous l'avons vu en 2001, sur 5 jours. Donc, le terme krach apparaît lors de la chute des bourses de Vienne et de Berlin, qui s'est passée en octobre 1873. C'est un phénomène donc ancien, et l'histoire a été ponctuée de krachs plus ou moins spectaculaires. Alors, celui dont je vais vous parler, peut-être pas un krach boursier, mais c'est le premier dégonflement d'une bulle assez rigolote. Alors, le terme associé, c'est la tulipomanie. Donc, vous comprenez, tulipo, c'est les tulipes. Le krach des tulipes est la première crise financière inscrite dans l'histoire de la bulle spéculative. Elle eut lieu dans les Provinces-Unies, qui sont devenues les Pays-Bas, et concerne l'effondrement de la spéculation démesurée sur le bulbe de tulipe. Comme quoi, avec nos valeurs Internet, on n'a pas inventé grand-chose. Il y avait des gens qui étaient capables de spéculer sur des actifs assez étonnants. Alors pourquoi le bulbe de tulipe ? Tout simplement parce qu'au XVIIe siècle, le nord de l'Europe manifeste un engouement pour l'horticulture et le jardinage, et principalement pour la tulipe, qui n'était pas connue à cette époque, car originaire de Constantinople, est considérée comme une plante rare et méconnue du grand public. Donc tout ce qui est rare est cher, et tout le monde en veut. La tulipe fait l'objet de plus en plus de convoitises à cette époque, à tel point que les voleurs, alors ça c'est pareil, aujourd'hui ça paraît complètement délirant, mais les voleurs s'immisçaient dans les jardins botaniques pour voler les bulbes. Aujourd'hui, il suffit d'aller dans n'importe quelle jardinerie, on en achète pour pas très très cher, donc ça sert à rien d'aller les voler. Rapidement, également, la tulipe devint le symbole de luxe, comme le prix était très important, et comme il n'a pas arrêté de monter, il est devenu de plus en plus un objet de luxe. Je vous citerai pas de marque aujourd'hui, j'ai pas envie de faire de pub à des gens qui ont déjà largement ce qu'il faut sur leur compte bancaire. Et toute la bourgeoisie se battait un petit peu pour avoir la dernière couleur, le dernier bulbe, ou en avoir un peu plus pour que les copains n'en aient pas. Alors comment cette simple fleur a-t-elle pu être à l'origine d'un premier krach financier de l'histoire ? Alors, un petit peu de technique horticole, c'est pas trop l'objet de la chronique, mais c'est la dernière de l'année, allez, laissons-nous aller et soyons un peu curieux et bagnodons sur d'autres champs que le champ financier. Alors la tulipe est une plante à bulbe qui se reproduit par semence ou par division du bulbe. Impressionnant, hein ? Elle fleurit en avril et en mai. C'est pourquoi les ventes au comptant, donc les ventes qui se font au moment où elles doivent s'effectuer, à la différence des ventes à terme, elles avaient donc lieu durant ces 2 mois. Sachant qu'elles ne fleurissent qu'une semaine. Donc vous allez voir que les prix sont importants pour une fleur qui n'est fleurie qu'un 54e de l'année. Le reste de l'année, les contrats signés devant notaire, parce qu'on rigolait pas, vu les montants en jeu, étaient des achats sur le marché à terme. C'est-à-dire que les ventes qui portaient sur les bulbes portaient sur des bulbes qui n'existaient pas encore. On achète un bulbe qui potentiellement pourra exister et potentiellement ne donnera absolument rien, ou une superbe fleur, ou quelques fleurs. C'est ainsi que les Néerlandais créent un marché sur lequel le bulbe de tulipe se négocie comme un bien durable. Le nombre d'intervenants augmente et les spéculateurs apparaissent. Effectivement, il y a de l'argent à faire rapidement, donc apparition des spéculateurs. C'est pas une critique, c'est juste une observation. L'explosion du prix du bulbe. Alors les prix commencent à réellement exploser en 1634, jusqu'à fin 1636. Au plus fort de la bulle, des promesses de vente sur ce bien durable pouvaient se négocier à des prix records. Par exemple, certaines estimations montraient que le prix pouvait atteindre la valeur de, tenez-vous bien, deux maisons, voire plusieurs années de salaire d'un ouvrier. En février 1637, c'est là que ça devient plutôt pas mal, que la rationalité reprend un petit peu reprend les devants, les spéculateurs, qui ont très bien gagné leur vie jusqu'à ce moment-là, se rendent compte de l'irrationalité de ce phénomène. Donc le prix des bulbes de tulipes s'effondre brutalement, de nombreux marchands firent faillite. Quelles conclusions pouvons-nous donc en tirer? Alors cette bulle, qui a fini par exploser, a marqué l'histoire économique et financière moderne. Elle est annonciatrice de toutes les bulles qui vont suivre, y compris la bulle Internet, que tout le monde connaît, c'était juste il y a 18 ans, enfin, sauf les plus jeunes. Tous les ressorts et mécanismes financiers modernes étaient déjà à l'époque réunis, que ce soit pour la tulipe aux Pays-Bas au XVIIe siècle, pour les start-up Internet ou les valeurs technologiques en 2001, et même sur le marché immobilier américain en 2007 avec la célèbre crise des subprimes. Le mécanisme à l'œuvre dans la constitution du bulle est toujours le même. La valorisation d'un produit est complètement déconnectée de sa valeur réelle, et seule compte l'anticipation. Tout le monde est persuadé que le prix va continuer à monter. C'est le principe même d'une bulle. Alors, sans vouloir être l'oiseau de mauvaise augure en cette fin d'année 2019, il est fort probable qu'il y ait quelques bulles actuellement sur les marchés financiers. Ne parlons pas de la bulle obligataire qui est juste énorme, mais sait-on jamais, elle pourrait continuer, même si certains imaginent que les taux pourraient potentiellement remonter, même s'ils remontent légèrement. Je vous rappelle que la crise des subprimes est due à une petite remontée des taux d'intérêt, donc de pratiquement 0 à 4% par notre ami Alan Greenspan. Enfin, notre ami, je ne le connais pas, hein, mais voilà, c'est une expression, qui a eu pour effet de rendre le coût d'achat, enfin des mensualités des Américains pour l'achat de leur maison totalement délirant. Et comme le disait Benjamin Graham, en bourse, il y a deux alternatives. S'enrichir lentement, ce que font pas les spéculateurs, ou s'appauvrir rapidement, ce que peuvent de temps en temps faire les personnes qui arrivent sur les marchés juste au mauvais moment, quelques semaines avant la chute. Benjamin Graham, qui sait, c'est l'auteur de peut-être l'un des meilleurs livres pour les investisseurs, que tous les investisseurs devraient lire, qui s'appelle L'investisseur intelligent, qui a été publié en 1949. Il a inventé l'investissement value, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder la croissance potentielle des valeurs, il regarde la valeur. Ça paraît bête, mais c'est assez simple à faire. Enfin, c'est assez simple à faire en théorie, en pratique, un peu moins. Mais il a un mentor qui a plutôt pas trop mal réussi, c'est Warren Buffett. Ça doit être l'une des 5 plus grosses fortunes du monde. Et il a un fonds, Berkshire Hathaway, qui a des performances un petit peu extraordinaires. Ce matin, en lisant la presse, je suis tombé sur un chiffre assez intéressant. Donc, en ces temps de bataille autour du dérèglement climatique, Swissre, grande compagnie de réassurance suisse, a publié un chiffre assez important, 133 milliards de dollars. C'est le coût des dommages qui ont été engendrés par les catastrophes naturelles en 2019, sachant que ce chiffre est à peu près le même qu'en 2017, on était à 144 milliards, et en 2018 à peu près, sur les mêmes ordres d'idées. Donc, à voir pour certains décideurs, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant que cet argent aille dans des idées pour essayer de ralentir ce dérèglement climatique, ou alors est-ce qu'on continue à payer, sachant que la tendance est plutôt stagnation, mais stagnation avec une petite hausse, et que ça pourrait être encore plus important. Enfin, et dans la Casa de Ebel, tout est permis, je finirai cette dernière chronique de 2019 par vous livrer un texte qui a une résonance particulière en moi. Ce texte, dont le titre est « Chaque seconde », a été écrit par une amie comédienne. Je vous livre sa prose. Chaque seconde, l'innocence est assassinée. Chaque seconde, la connaissance est dissimulée. Chaque seconde, la vie recule. La diversité animale et végétale s'en va. La diversité humaine est contrainte à la norme ou exclue du champ social. exclus de l'humanité. Les inconsciences survivront au chaos. Et puis, leur reviendra l'inconscient collectif qui hurlera. Alors, ils comprendront qu'ils ont tué les insignifiants. Ceux-là même qu'ils considéraient comme leurs ennemis. Alors qu'ils étaient leurs uniques protecteurs. Leurs uniques remparts à la folie. Le chaos a commencé. Celui où l'innocent est le criminel qui empêche les multinationales de poursuivre la colonisation du monde vivant par l'économie, les algorithmes sans conséquence. Celui où le héros qui sauve les baleines, les arbres, la pureté de l'eau, de l'air, est un hors-la-loi. Celui où ceux qui savent se taire en dehors de la société. Chaque seconde, la vie s'en va. Chaque seconde compte. L'indifférence à ce monde essentiel est le plus grand des crimes contre l'humanité. Il revient à l'homme seul de se reconnecter à la réalité, à se regarder en face. Le monde de l'enfance, de l'innocence, n'a besoin que d'exemplarité et d'aucune autre leçon théorique. Les yeux des enfants ne mentent pas. Votre souffle ne ment pas non plus. Le ressentez-vous, votre souffle, celui en cohérence avec vous-même et le monde vivant? Quand avez-vous ressenti votre souffle? Cette période de Noël est propice à une parenthèse, une pause pour écouter votre cœur. Pour vous, vos enfants, les innocents essentiels à ce monde, à tous les peuples autochtones, à tous les nomades, à tous les hommes libres, à tous les lanceurs d'alerte qui meurent dans la différence, à la connaissance et à la conscience. Merci Emma pour ce superbe texte. Alors Emma Perret, donc qui est une comédienne, finalise son dernier spectacle qui s'appelle « De la fin du monde à l'amour inconditionnel ». Et la fin s'écrit F-A-I-M. C'était la Casa de Ebel. À la réalisation, Hugo Pépiton. Donc vous pourrez retrouver cette chronique ainsi que l'ensemble des chroniques de la radio en podcast sur le site de la radio www.espritoccitanie.fr. N'hésitez pas à commenter cette chronique. Je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année et bon appétit. À bientôt pour une nouvelle chronique et merci pour votre écoute.
Chers auditeurs, bonjour. Monique Marc pour la rubrique « La lectrice d'Occitanie ». Nous découvrons aujourd'hui un nouveau chapitre du roman « Superman ne volera plus » de Gilbert Noguès aux éditions Cairn. Il s'intitule « Un froid de canard ».
Nom d'un glaçon, se dit le canard, il fait un vrai froid de moi. Et les pingouins trouvent ça bizarre. Ils ne comprennent pas.
Et Superman tombe pour la troisième fois. Ben oui, une première fois du dixième étage de l'immeuble au pied duquel je m'étais assoupie, une deuxième fois quand je l'ai invité, façon de parler, à pénétrer dans le jardin. « Putain, j'ai pas pu le rattraper !» me murmure la chanteuse de rue. L'endroit que nous avons choisi pour le transfert du corps est sombre. D'ailleurs, c'est le même que j'ai utilisé le soir précédent. Mais au bruit que j'ai entendu, j'ai vite compris que le corps n'avait pas atterri comme prévu, directement dans le triporteur, mais qu'il s'était esclaffé sur le béton. Pauvre Superman. J'arrive. Une chose est sûre. Ce n'est plus de mon âge d'enjamber les clôtures et de soulever des cadavres. Et puis, il avait fallu que tout seul, j'aille chercher mon nouvel ami. « Tu me vois enjamber cette putain de clôture avec mon gros cul ?» avait proféré ma chanteuse. J'admirais la patience de Superman. Il était toujours allongé à l'endroit où je l'avais déposé. J'avais craint toute la journée qu'un visiteur prostatique ne s'engouffre dans le fourré et ne vienne déverser sur ce pauvre homme le trop-plein d'une vessie biéreuse. Pas même un animal, semble-t-il, n'était venu fureter ou fourrailler autour de sa dépouille. En plus, il ne fait pas chaud. La température est certainement descendue au-dessous de zéro. Je le sais, car mes doigts engourdis peinent à saisir les brandillons de Superman et la buée épaisse qui sort de ma bouche finirait par former un cumulonimbus. J'exagère un peu, mais j'aime bien exagérer. En tout cas, cette atmosphère glaciale, je parle toujours de météo, est propice à la conservation de notre macabée et aide probablement à ralentir sa décomposition. J'ai atterri à mon tour, de l'autre côté de la grille, non sans avoir laissé un pan de tissu du pantalon dans lequel Consuelo m'a enharnaché ce matin. J'en rougirais presque, si je ne ressentais aussitôt un vent polaire venir lécher le bas de mon dos ou le haut de mes cuisses. Vous pouvez choisir. « Aide-moi, on va le foutre dans le tripot !» Là, je découvre que notre compagnon d'infortune, pauvre de nous, ne pèse pas lourd. Mais c'est sans doute la puissance des abatis de Consuelo qui nous permet de le soulever et de le déposer dans le véhicule avec délicatesse. C'est vrai que pour Superman, depuis 24 heures, rien ne s'est fait dans la bienséance, la prévenance ou le savoir-vivre. Et il en est mort. Pas question de nous mettre à quatre sur notre véhicule. Consuelo tient le guidon, moi je pousse et Spartacus assure, depuis sa vigie, le guidage de notre caravane. Je me rends compte que la nuit, il doit être plus de minuit, les rues de la Cité Rose ne sont pas si sombres et dépeuplées que ça. En longeant le boulevard Las Crosses, en contournant la statue d'Héraclès, sur le square du même nom, en enjambant le canal de Brienne, notre attelage attire les regards, les sourires, les ahurissements, les embarras. Des klaxons sonores, capables de réveiller les travailleurs endormis, nous font sursauter. Spartacus, en chien bien léché et respectueux de la classe ouvrière ensommeillée, ne relève pas et ne fait pas entendre son aboiement tonitruant. La traversée du pont des Catalans accentue davantage la perception de froid. Le vent glacial qui court sur les eaux de la Garonne nous tétanise. Consuelo enfonce son bonnet et remonte le col de son blouson. Je grelotte sous mon pull de laine, trop ample, trempé de sueur algide, et je claque des dents. Une lueur bleutée et tournoyante ralentit à notre approche. « Putain, les condés !» marmonne Consuelo. « Manquez plus que ces pingouins !» Je ne sais plus si c'est le froid de canard ou la présence des pingouins, mais mon corps, tel un séisme, se met à trembler, mes muscles se convulsent, je blêmis, je sens que je vais flancher, m'affaler sur le trottoir ou fuir en me jetant dans le fleuve. Spartacus s'est redressé dans sa cagna, gros grogne en soulevant ses babines et en laissant découvrir ses canines. « Alors la petite dame !» La maison Poulaga n'est pas très observatrice. « On a fini son tour de champ et on rentre se coucher ?» Consuelo se tourne vers la Peugeot 208, arborant le mot « police » sur son flanc. « Et comment il sait que je chante le monsieur de la police ?» La peau hâlée par la mélanine, l'homme déborde de l'habitacle. Un géant, tout en muscles, capable de vous envoyer une gifle amicale et qui a probablement abandonné son île Canac pour un travail de simple flic au commissariat de l'embouchure de Toulouse. Parce que le monsieur de la police, quand il n'arrête pas les bandits, les criminels, les assassins, il lui arrive d'aller écouter les chanteuses de rue. Eh ben, le monsieur de la police, il a l'oreille musicale, j'en suis ravie. Allez, traînez pas. Faudrait pas que vous attrapiez un mauvais rhume. Le policier mélomane nous salue. La vitre remonte, la voiture s'éloigne. Je note qu'elle penche beaucoup du côté passager. Spartacus referme sa gueule et s'allonge. Consuelo se tourne vers moi, me regarde pendant quelques secondes. Ses yeux sont humides. Elle me saisit les deux oreilles, je perçois l'humidité de ses moufles, puis attire mon visage vers elle et m'embrasse goulûment. « Putain, ça doit faire plus de 30 piges que j'ai pas roulé un palo à un mec !» Alors là, je ne comprends plus ce qui m'arrive. Tout va trop vite pour moi. Un funambule s'écrase presque sur ma gueule. Je rencontre une chanteuse de rue lesbienne qui me prend pour mon frère, qui m'amène chez elle, qui me savonne de haut en bas, qui m'aide à transporter un cadavre dans son triporteur et qui me roule une pelle sur le pont des Catalans en pleine nuit et en plein vent. Sérieusement ! En silence, nous reprenons notre chemin. Le musée des abattoirs, la place des Ravelins, la rue Adolphe Coll et enfin la rue Champêtre. La petite maison se blottit dans une minuscule cour, derrière un haut mur au crépi craquelé, sur lequel un graffiti confirme le passage d'un certain Daz 23. On y pénètre par un double portail de métal, largement rouillé, surmonté de six petits soleils en fer forgé. Une clé, qui doit bien peser son demi-kilo, permet de l'ouvrir et d'accéder à une allée pavée qui mène à la porte d'entrée et longe un carré de potager. Nous laissons le sarcophage à l'extérieur et pénétrons dans la maisonnette pour essayer de nous réchauffer. Quelques braises sont encore vives dans la rosière. Un vieux numéro de la dépêche, on peut aussi utiliser un numéro récent, et une cagette enflamme aussitôt un reste de bûche. Putain, on est enfin arrivé. Ça va, toi ? Les fesses collées à la rosière, je ne dis rien. Putain, c'est pas parce que je t'ai roulé une galoche que tu dois faire une tête d'enterrement. On n'en est pas encore là. Je suis moi-même surpris par ce que je viens de lui dire. Pas là où ? Me demande la ventripotente. Bah, l'enterrement. Ah putain, je pensais à autre chose. En attendant, il va falloir le mettre au frais, notre cadavre. Faudra un congélateur. Ma proposition ne la laisse pas de glace, et je vois que sa mine s'illumine. Putain, t'es pas la moitié d'un con. Au fait, c'est quoi l'autre moitié d'un con? Et je sais. Où on va le trouver, ton congélo, Auguste? Alors on laisse le cadavre, le mort dans le triporteur? Ben non, mon Gus. Demain, on ira voir un pote qui est un peu brocanteur et qui va sûrement nous trouver ce qu'il faut. Mais ce soir, ton cadavre, on va le mettre au chaud, dans le frigo. Chers auditeurs, je vous invite à retrouver cette rubrique ce soir entre 23h et minuit et demain matin de 10h à 11h ou en podcast sur le site www.espritoccitanie.fr. Je vous souhaite de très bonnes fêtes.
Voilà, c'était Patchwork sur Esprit Occitanie, l'émission où vous avez pu entendre différentes rubriques et je vous l'ai dit en introduction, la semaine prochaine, en plus, on vous parlera d'un vin et de son terroir. Merci à Hugo Pupitone qui a monté cette émission et à très bientôt pour de nouvelles rubriques sur Esprit Occitanie.